Le texte que nous allons commenter se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 3, versets 10 à 18. En voici la lecture. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Alors un texte intéressant à plus d'un titre. Déjà, il est intéressant parce qu'il nous montre vraiment l'orientation que doit prendre toute vie chrétienne. Alors, voyons ça un peu plus en détail. Alors, déjà, notons que les gens qui viennent à Jean-Baptiste sont, disons, à part les foules, où là, il y a un peu de tout, mais enfin, disons, le mot foule est assez péjoratif, y compris dans les évangiles. Souvent, la foule, c'est la plèbe, c'est le peuple, les petits. Et puis les collecteurs d'impôts, comme on voit avec Zachée, avec Matthieu, Matthieu Lévi, ce sont des gens méprisés par le peuple. Et puis les soldats, souvent, sont des païens. Donc tous ces gens qui viennent à Jean-Baptiste sont des gens qui ne sont pas bien vus par la religion établie, par les pharisiens. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Jean, comme symbole du Christ, finalement, comme le précurseur, accueille tout le monde. Eh bien, sachons que nous pouvons avoir l'impression d'être des moins que rien, des pauvres, des serviteurs bien inutiles. Eh bien, sachons que le Christ nous accueille et nous avons quelque chose à faire, quelle que soit notre position, quel que soit notre péché, etc. Donc devant le découragement face à ce que nous pouvons être ou face à notre péché, eh bien nous avons quand même un appel du Christ qui lui ne regarde pas, ne s'arrête pas à nos péchés, mais par sa miséricorde regarde plus loin et nous donne quelque chose à faire. Donc ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que quel que soit le degré d'éloignement que nous pensons avoir par rapport au Christ, quel que soit le péché que nous pensons avoir, eh bien que cela ne nous décourage pas de servir le Christ, car tout comme ces gens qui étaient rejetés à l'époque sont venus vers Jean-Baptiste pour lui demander ce qu'il devait faire, eh bien nous aussi allons vers le Christ, quel que soit notre péché, car comme il le dit dans le livre d'Isaïe, le Seigneur rendra plus blanc que la neige notre péché, aussi cramoisi soit-il. Eh bien, en plus, il y a quelque chose qui est très frappant. Dans toutes les religions orientales et dans le New Age, c'est très à la mode, il n'y a qu'à regarder notre télévision, moi je suis très surpris. Quand vous regardez en France, France 2, Télématin, c'est le bien-être, moi, se poser des questions, qui suis-je? Ça c'est la grande question, qui suis-je? Je ne dis pas que ce n'est pas important, bien au contraire. Mais l'Évangile nous renvoie comme en boomerang cette question, ce n'est pas qui suis-je, mais que dois-je faire? Et ça c'est toute la foi chrétienne. C'est dans l'incarnation que se manifeste notre être. C'est, comme le dit le Christ en Actes 25, oui, c'est Paul qui cite des paroles du Christ qui ne sont pas dans l'Évangile, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, il se trouve que tout ce qui est yoga, toutes ces spiritualités, ces pseudo-spiritualités qui sont très axées sur soi-même, eh bien, sont à l'inverse de ce que dit le Christ. C'est d'abord mon moi, un peu comme Bouddha, se décharger, se séparer du monde et de sa souffrance pour ne plus souffrir soi-même. Eh bien ici, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage en ce monde, pour vraiment manifester davantage l'amour de Dieu? Eh bien ça, c'est vraiment très important de comprendre vraiment en nous-mêmes que la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord une foi centrée sur soi-même du bien-être, c'est New Age yoga, c'est une foi de l'incarnation à l'image du Fils de Dieu. Et c'est justement en perdant sa vie, comme le dit le Christ, en perdant cette soif de satisfaire son petit moi, que nous trouverons la vraie vie. Mais allons plus avant dans le texte. Donc les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a de vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. » Le chrétien doit se distinguer dans l'amour qu'il donne. Nous devons faire plus que la moyenne. Comme le dit Jésus, « Si vous ne saluez que les païens, que vos amis, pardon, les païens ne font-ils pas de même ?» Il y a des paroles dans Matthieu, au chapitre 5, 6 et 7, qui vont très loin. « Si on te demande de faire une lieue, fais-en deux. Si on te frappe sur la joue, tends l'autre joue. » Nous devons, nous chrétiens, comprendre que l'amour, c'est l'arme de Dieu par excellence. Et cet amour se manifeste d'abord par notre intercession. Nous devons prier, y compris pour nos ennemis. Et comme un prolongement, finalement, de notre prière d'intercession, nous devons aimer le plus que nous pouvons tout le monde. Et ce que demande Jean-Baptiste, c'est à la fois très exigeant et pas tant que ça. Parce qu'il ne dit pas « donne tous tes vêtements », mais « t'as deux vêtements, donne-en la moitié ». Dans-en un, et si tu as de quoi manger, fais de même, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de mourir de faim pour les autres, mais de partager. C'est-à-dire que nous, chrétiens, on ne nous demande pas de vivre forcément dans la misère, mais nous devons aimer, donc effectivement, nous devons nous aimer nous-mêmes, alors ça paraît contredire ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons être bien dans notre peau, mais non pas en étant centrés sur nous-mêmes, mais en étant centrés sur le Christ dans notre prière. Et à partir de ce que nous sommes grâce au Christ, nous devons rayonner par un amour qui va au-delà de ce que la moyenne exige, entre guillemets. Parce que c'est à ça vraiment que nous pourrons interroger les gens, les questionner. Donc nous devons prier et aimer comme authentification et prolongement de notre prière. Finalement, c'est la même chose. Si nous prions pour des gens, eh bien, quand il nous est donné l'occasion de manifester notre amour dans le monde visible, comme étant une traduction de notre amour dans le monde invisible, qui est notre intercession, eh bien, n'hésitons pas. Ça veut dire l'amour des ennemis, ou donner plus de temps, être plus bénévole. Voyez, mais ce n'est pas forcément tout quitter. Hein, ce n'est pas demandé à tout le monde. Ici, Jean-Baptiste demande de faire plus que la moyenne, parce que nous devons nous rendre compte, nous chrétiens, que l'amour et la prière sont les deux bras armés, si j'ose dire, de l'action de Dieu pour amener des âmes. Et de même pour notre vie, que devons-nous faire? Eh bien, plus que la moyenne, nous devons prier pour être purifiés, pour que toutes les zones d'ombre cessent, et nous devons, parce que nous prions, redoubler d'efforts, etc., pour faire plus, hein, aussi sur nous-mêmes, pour être plus saints, c'est-à-dire plus séparés de ce que le monde peut être dans son péché. C'est ça la sainteté. Alors écoutons la suite. Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Ah oui, d'abord les collecteurs d'impôts donc lui demandent, que devons-nous faire, maître? Et il leur dit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. À leur tour, les soldats lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. Alors ici, tout à l'heure, Jean montrait qu'il nous faut aimer, entre guillemets, plus que la moyenne. Et là, eh bien, il y a un rappel que eh bien, nous devons vivre cette vie le mieux que nous pouvons sans faire forcément des choses extraordinaires. C'est-à-dire que la question « que devons-nous faire ?» est piégée. Parce qu'il y a le piège, d'abord, comme je disais, de toutes les religions orientales, faire peu et tourner autour de son nombril. C'est une spiritualité, disons, désincarnée. Et ça guette aussi, ça nous guette nous aussi chrétiens, quand une prière authentique vraiment avec une méditation de la parole de Dieu, petit à petit nous fera quand même s'efforcer, regarder nos frères. Mais il y a une spiritualité, disons, très superficielle qui se contente non pas de se mettre face à la parole de Dieu et face au Christ et prier, mais disons, survoler un texte, aller de célébration collective en célébration collective, de messe en messe sans en mesurer l'impact, enfin sans en Oui, c'est ça, sans avoir d'impact dans notre vie, parce que nous n'avons pas ce temps face à Jésus où nous nous laissons vraiment influencer, transformer par lui. Eh bien, cette spiritualité n'agit pas. L'autre piège, c'est l'activisme. Parce que si nous pensons que tout est dans le faire, eh bien, nous allons vite déchanter, parce que d'abord, nous ne pouvons pas tout faire, et ensuite, vous savez, l'amour se manifeste pas toujours par des choses extraordinaires, mais un sourire, une vexation acceptée, eh bien ça, c'est plus que l'activisme. Ça, c'est vraiment dans les détails de la vie, et ça demande beaucoup de force. Et seule une transformation intérieure permet de gérer avec amour toutes ces petites vexations au quotidien. Et ça, il n'y a que la prière qui peut le faire. Donc le deuxième piège, c'est l'activisme. C'est pas que devons-nous faire, nous ne devons pas nous jeter forcément à corps perdu et agir au détriment de la prière et des contacts humains, y compris avec nos proches, pour aller, disons, faire du bénévolat à tout prix. Et... Non, ce que nous devons faire, c'est aimer au quotidien vraiment plus que la moyenne, une petite vexation supportée avec le sourire, des petits détails, des petites choses qui sont très difficiles à faire, un geste d'amour vis-à-vis de quelqu'un que nous ne supportons pas, et pour qui nous prions, etc. Donc ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure Jean-Baptiste, aller plus loin. Mais il nous rappelle ici que nous sommes dans la vie, nous sommes appelés à être modestes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans les grandes choses qui se passent, que se joue, disons, l'avenir, ou l'action de Dieu, mais dans les petites choses. Et c'est aussi un rappel que nous aurons beau aimer et prier beaucoup pour les gens, eh bien, la vie nous montrera que les choses ne changent pas tout de suite. Et que l'état de notre vie, eh bien, nous sommes collecteurs d'impôts, nous sommes soldats, eh bien, il nous faut faire ce que Dieu nous demande au quotidien, mais tout ne change pas tout de suite. Donc vous voyez, ici c'est un rappel au réalisme. C'est pas parce que nous prions et que nous aimons le plus que nous pouvons grâce à la grâce du Christ certaines personnes, ce n'est pas parce que nous prions pour tel ou tel défaut que nous faisons des efforts aussi grâce à la grâce du Christ, conscient que notre prière aussi agit, supportée par nos efforts, que tout va changer tout de suite. Ben nous restons soldats, nous restons publicains et il faut du temps pour que les choses se transforment. Donc ici, il y a une leçon. Agissons dans les petites choses, faisons ce que nous pouvons en comptant sur la grâce du Christ et soyons patients et persévérants. Et ensuite, il y a la deuxième partie du texte qui est « Or le peuple était en attente ». Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. Voyez, ici, il y a aussi une tentation. Jean, c'est un peu ici le symbole, ça peut être le symbole du Christ, évidemment, mais c'est aussi le symbole de nous-mêmes, de notre activisme. Nous avons tendance à penser que nos actions sont premières, que tout se joue dans le monde visible d'abord, parce que c'est ce à quoi nous sommes le plus habitués. Eh bien, ayons la modestie de Jean de savoir que nos efforts, nos actes d'amour, que ce que nous voyons n'est pas premier. Mais Jean nous dit ce qui est premier. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Donc, ayons l'humilité de penser que ce sont nos prières qui soutiennent la grâce du Christ. Donc, c'est en définitive la grâce du Christ qui est première et que nos efforts ne sont que relatifs. Ils ne sont qu'un appui, soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport à nos frères que nous aimons comme nous le pouvons, et là aussi, grâce au Christ, parce qu'il est au début et à la fin de notre amour. Il engendre notre amour, cet amour lui-même engendre, l'amour dans le cœur de nos frères. Mais tout est au Christ. Et notre prière n'est là que pour demander au Christ sa grâce. Eh bien, finalement, soyons conscients comme Jean que tout se joue d'abord dans l'invisible, dans les cœurs et dans le monde invisible. C'est au-delà de ce que nous voyons, c'est au-delà de nos actions. C'est pareil, parfois nous avons des grands discours, des belles actions, soyons humbles et demandons à Dieu de faire porter du fruit à ce que nous avons dit, à ce que nous avons fait. Parce que c'est cette prière qui va vraiment engendrer quelque chose. Et alors pourquoi donc Jean dit « Je ne sais pas moi le Messie, c'est Jésus ». Eh bien parce qu'il perçoit que seul Jésus peut faire certaines choses. « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air, abattre le blé. il amassera le grain dans son grenier, quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Ben, le Christ, c'est le seul qui peut vraiment agir en profondeur et faire le tri et brûler tout ce qui est mauvais en nous et dans le cœur de nos frères. Donc finalement, le Christ ici, qui lui baptise dans l'Esprit Saint, nous ne baptisons que dans l'eau. C'est-à-dire nos actions ne sont que, et nos prières, enfin sur nos actions surtout, ne sont que des coups d'épée dans l'eau sans la grâce du Christ, sans la prière. Vous voyez, ça ne contredit pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous devons agir, mais pourquoi agir ? Ben parce que cela doit être perçu comme un prolongement, un appui à notre prière et donc au travail de la grâce du Christ dans le cœur de nos frères. Parce que si nous agissons avec un autre but dans la tête, eh bien c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est le baptême de l'eau. Il faut avoir le baptême de l'Esprit, seul le Christ le donne. C'est lui qui a le feu, c'est lui qui va faire le tri du bon et du mauvais blé. C'est lui qui va amasser le grain dans son grenier, c'est lui qui va travailler dans les cœurs pour faire que germe la bonne plante. Et c'est lui qui va brûler tout ce qui est mauvais dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas nous. Nous pouvons aider cette action. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa bonté, a voulu être... Il est Père du Christ. Il a voulu en son Fils s'incarner pour que l'homme sauve l'homme, pour que ce soit en pleine liberté que l'homme soit sauvé. Donc c'est pour ça que le Christ s'est fait homme. Et nous-mêmes, eh bien, nous sommes appelés à prolonger cette humanité du Christ en priant pour nos frères, en agissant pour eux. Ainsi, Dieu peut toujours continuer à agir en Jésus-Christ par notre humanité, notre liberté que nous lui donnons. Ainsi, l'humanité est sauvée par l'humanité. Vous voyez cet amour qui va jusque dans le Christ en s'incarnant pour que tout soit respecté, toute notre liberté soit respectée. C'est tout le sens aussi de la Trinité. Le Père, quand il se pense, eh bien, est pur don qui se manifeste par la liberté même d'une personne qui est engendrée et qui se manifeste par l'incarnation. Et après, par cette incarnation, nous-mêmes, nous sommes des prolongements par notre prière et notre action. Nous donnons à Dieu cet espace de liberté pour qu'il sauve l'homme par l'homme. Voilà, c'est là où est notre rôle. Mais ça reste quand même un rôle secondaire par rapport à l'action de Dieu. Elle est première. Et c'est ce Jésus-Christ qui va permettre de transformer les cœurs. Et si nous élargissons un peu tout ce texte, c'est aussi, vous voyez, la vie présente et la vie éternelle. Jean-Baptiste, c'est le symbole de cette vie présente. Nous devons agir, etc. Mais nous ne devons pas oublier que la vie éternelle, que la vie après la mort, c'est ce qui est important. Et nous devons déjà apprendre à vivre avec ces valeurs et à tout relativiser, ce qui peut se passer, le succès, l'échec, etc. Et nous devons aussi penser que nos frères, qui semblent parfois ne pas s'ouvrir à Dieu, eh bien, au-delà de la mort, eh bien, nos prières, nos gestes d'amour auront un poids insoupçonné. Donc ne perdons pas courage dans nos prières et dans nos gestes d'amour, parce que Dieu aura le dernier mot. Et de même, je dis dans nos vies, sachons relativiser, parce que le Christ nous offre la vie éternelle. Il nous promet, bien sûr, nous serons heureux dès ce monde, dans le suivant, il nous aide déjà, comme je le dis, sa grâce travaille en nos cœurs, mais n'oublions pas qu'il est venu nous apporter vraiment d'abord et surtout la possibilité de vivre avec Dieu dans l'éternité. Et c'est pour ça que nos défauts, par exemple, ou nos frères qui ne s'ouvrent pas à Dieu, il faut penser que cette pelle à vanner, etc., eh bien, cette paille qui brûlera, ce sont tout ce qui fait qu'on n'est pas proche de Dieu. Et tout ce qui fait obstacle à la grâce de Dieu dans nos cœurs et dans celui de nos frères, eh bien ça sera pleinement révélé, ça sera pleinement accompli, eh bien après la mort. Il ne faut pas l'oublier ça, parce que si nous attendons tout de suite dans cette vie, nous serons déçus, car déjà en commençant par nous-mêmes, nous sommes toujours attristés par le fait que nous ne sommes pas aussi parfaits que nous le voudrions. N'oublions pas que le Christ agit dans notre vie, dans nos cœurs, pour être pleinement réalisé, que cela se réalise pleinement après la mort. C'est après la mort que tout va vraiment brûler, etc. Et que le tri sera fait, ce qui fait que dans notre vie, dans la vie de nos frères, tout n'est pas à Dieu. C'est un petit peu le sens de 1 Corinthiens 15, où on parle de ce corps corruptible qui va revêtir l'incorruptibilité. C'est revêtir le Christ, c'est ce que dit Paul aussi. Alors, pensons aussi à la fin des temps. Ce monde, il est ce qu'il est. Nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais n'oublions pas que seul le Christ va pouvoir aussi durablement transformer ce monde. Et ça, c'est un appel à l'Église. Prions vraiment pour que notre Église soit plus spirituelle et qu'elle n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'elle aime, mais que son action n'est qu'un appui à la grâce de Dieu et que tout se fait dans le temps et modestement, un petit peu comme ces publicains et ces soldats qui pensaient peut-être devoir faire de grandes choses. Et Jean-Baptiste leur dit « Aimez là où vous êtes ». Eh bien, sachons que cet amour qui paraît être une goutte d'eau dans l'océan, eh bien, c'est suffisant pour que la grâce de Dieu travaille et que c'est le Christ, par son esprit, qui fait le reste. C'est le Christ qui transforme ce monde. Alors, évidemment, c'est très modeste au départ, mais cela germe. Et que notre Église, eh bien, en soit consciente et nous-mêmes. Parce que, au lieu de nous décourager devant les gens qui tournent le dos en Occident face à la foi chrétienne, etc., sachons que ceci n'est que temporaire et que ce monde se tournera vers Dieu définitivement quand les temps seront accomplis. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de penser ici à Jean comme étant le symbole un petit peu des autres religions, notamment des religions, je disais tout à l'heure, je parlais des religions hindoues, tout ce que vous voulez, et je pense surtout à l'islam. Vous avez beaucoup de religions qui manquent de spiritualité et qui n'ont que les efforts, on va essayer de faire le mieux qu'on peut, et beaucoup de chrétiens d'ailleurs réagissent comme ça, à l'image de Joseph, le père nourricier de Jésus, qui a du mal à accepter l'action miraculeuse de Dieu à travers Marie. Il faut qu'un ange lui dise que, eh bien si, c'est possible. Eh bien, c'est un petit peu aussi l'islam et beaucoup d'autres religions, et certains chrétiens qui n'arrivent pas à se rendre compte du rôle premier de la grâce. Nous avons tendance, et les autres religions, à vouloir agir par nous-mêmes, et contrairement à ce qu'a fait Jean, où il dit « mon action compte », c'est ce que je dis tout à l'heure, mais elle n'est que secondaire, elle n'est qu'un appui à la grâce de Dieu, eh bien, on se suffit à soi-même, on veut agir par nous-mêmes, ou un peu comme l'islam, où on essaye de faire son devoir, et après, ben, Inch'Allah, on verra bien si Dieu nous donne le paradis ou l'enfer. Eh bien, c'est pas ça du tout, il faut avoir la modestie de Jean. Et il faut, par exemple, que les autres religions, parce que je pense que ça peut être un terrain favorable à l'action du Christ, mais prions pour que ces religions, eh bien, la modestie de Jean, qu'à un moment ou à un autre, eh bien, quand le Christ leur sera révélé, elles aient l'humilité, ces religions, de voir que le Christ, bien loin d'être un concurrent, est un accomplissement. Et c'est comme ça que nous devons aborder les autres religions. Quand nous voyons des musulmans ou d'autres religions, soyons bienveillants, prions pour eux, n'essayons pas de les convaincre, mais surtout, prions pour eux pour qu'ils rencontrent le Christ, la pleine lumière, l'accomplissement de leur foi. Parce que les apôtres, c'est ce qu'ils faisaient quand ils voyaient des juifs. Ça m'a toujours surpris dans les actes des apôtres, ils n'appelaient croyants que ceux qui s'étaient convertis au Christ, et pas simplement le fait de croire en Dieu. Les démons aussi d'ailleurs croient en Dieu. Ça ne suffit pas à ça. Eh bien, il faut vraiment avoir cette relation au Christ. Alors, dans le dialogue interreligieux, qui est très miné, très piégé, il faut faire très attention, il faut toujours, même si ouvertement, on ne dit pas toujours tout, parce que les gens ne sont pas forcément mûrs à entendre la voix du Christ, il faut garder notre prière, il faut avoir présent dans notre prière la conversion des autres religions, parce qu'autrement à quoi sert le Christ, si on peut aimer Dieu au-delà du Christ, ça va en complète contradiction avec tout le Nouveau Testament. C'est ce que je voulais vous dire, et ici le texte conclut par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Eh bien, ce que je viens de vous dire, j'espère que ce n'est pas trop prétentieux, mais je pense que c'est vraiment le message qu'il faut délivrer. Un, il faut agir guidé par la prière, et même si cela est modeste, ne soyons pas trop ambitieux, mais dans les petites choses qui sont parfois difficiles, mettons tout notre cœur, toute notre action, et ceci sera d'autant plus facile que si nous sommes conscients que la moindre petite chose que nous faisons qui va au-delà de l'ordinaire, et même si c'est l'ordinaire, eh bien, si on le voit comme étant un prolongement, un appui de notre prière, eh bien, cela nous donnera du courage et cela donnera une autre densité à nos actes, parce qu'ils seront eux-mêmes prières. Et n'oublions pas, à l'image de Jean, que ce qui est premier, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu, et que nous sommes là comme un rôle d'appui, si vous voulez, d'intendant, mais celui qui fait le travail premier, malgré les apparences parfois, c'est Dieu en Jésus. De même, eh bien, cela doit nous porter à vivre déjà avec l'idée que de la vie éternelle, que la mort n'est qu'un passage, que la vraie vie, que tout s'accomplira de l'autre côté, et que notre monde, n'est pas condamné, mais que tout ce qui peut se passer, qui semble être hostile au Christ, n'est qu'une phase passagère, et c'est lui qui aura le dernier mot. Voilà le message qu'il faut délivrer, aimer et prier, prier et aimer. Voilà. Eh bien, écoutez, chers internautes, je vous propose maintenant de prier, justement, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence, où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, merci d'abord, Seigneur, parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, publicains, la foule, soldats. Nous avons tous un rôle à jouer dans ton armée, Seigneur. Eh bien, Seigneur, merci. Et délivre-nous de cette fausse humilité, ou parfois cette humilité mal comprise, qui fait que nous pensons que nous ne pouvons pas faire quelque chose pour toi car nous n'en sommes pas dignes. Oui, Seigneur, nous n'en sommes pas dignes, mais tu veux, toi, nous rendre dignes. Tu as besoin de toutes les bonnes volontés. Alors Seigneur, nous te disons, comme dans l'Épître aux Hébreux qui reprend un psaume, « Voici, je viens faire ta volonté. » Seigneur, aide-nous à aimer dans le quotidien, aide-nous à aimer dans les petites choses et à faire toujours grâce à toi, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous ton amour à faire dans les petites choses du quotidien plus que la normale, que nous sachions sourire, aimer ceux que nous n'aimons pas naturellement, que nous sachions prendre sur nous-mêmes pour vaincre notre égoïsme. Oui, Seigneur, aide-nous à partager nos vêtements et à donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Aide-nous vraiment à prendre sur notre vie pour faire plus que ce qui paraît raisonnable. Oui, en ton nom, Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous que, eh bien, c'est dans cette vie que nous veux que nous agissions où nous sommes, et que parfois, eh bien, nous pensons que nous ne faisons pas grand-chose, mais apprends-nous, Seigneur, que ce qui est important, c'est la qualité de l'amour que nous mettons dans ce que nous faisons. Alors oui, nous pouvons peut-être rester dans notre métier publicain, soldat. Oui, apprends-nous que malgré aussi l'impact modeste que nous semblons avoir dans ce que nous faisons, eh bien, toi, tu fais le reste. Ta grâce travaille quand même, surtout, je dirais. Oui, apprends-nous que finalement, le véritable amour, c'est aussi la persévérance et la patience, malgré les apparences. Et enfin, Seigneur, apprends-nous vraiment que ce qui est premier, c'est toi, c'est ta grâce. Oui, aide-nous, Seigneur, à tout faire dans un esprit de prière. Aide-nous à redoubler d'intercession pour nos frères. Et aide-nous à ce que nos actes soient un prolongement de cette prière que nous avons pour eux. De même, Seigneur, apprends-nous à faire des efforts comme un prolongement de notre prière pour nous-mêmes, pour que nous soyons plus proches de toi. Oui, Seigneur, conscient que c'est toi qui travailles dans les cœurs, toi seul peux mettre le feu dans les cœurs, dans ce monde, nous te prions, Seigneur, oui, viens, viens, envoie ton esprit sur nous, sur nos frères et sur ce monde. Seigneur, oui, apprends aussi à ton Église à regarder au-delà des apparences, à continuer à aimer, quelles que soient les apparences, dans la persévérance et l'humilité, oui, et dans un esprit de prière. Qu'elle n'oublie pas que tu es là au travail et qu'elle n'est pas toute seule à tout faire. Oui, Seigneur, apprends-nous aussi que cette vie n'est qu'une antichambre de la vraie vie, que tout trouvera son accomplissement de l'autre côté. Oui, alors aide-nous à relativiser nos échecs comme nos succès, et aide-nous aussi à relativiser le manque d'impact apparent parfois que nous pensons avoir sur nos frères et sur ce monde, car ce monde comme nos frères sont destinés à la grande transformation, que d'abord nos frères vont connaître par la mort et que ce monde va connaître par l'accomplissement des temps. Apprends-nous à ne pas l'oublier, Seigneur. Oui, Amen. Oui, j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.